cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard le 2 février 1994.
Bonne fête de la présentation. Nous avons essayé de voir rapidement la position de Thomas d'Aquin pour l'induction, pour l'individuation. Il faudrait voir maintenant la position de Don Scott. Intéressant, c'est un docteur subtil Don Scott, et comme il est bien heureux maintenant en toi, il a toujours été bien heureux, hein. C'est l'Église qui l'a proclamé bien heureux, c'était un saint homme. Alors je n'insiste pas parce que ça nous mènerait trop loin, et bien ce serait un petit peu d'ordre purement historique, c'est moins intéressant, c'est pas ce que nous faisons. Posons-nous le problème au plan purement philosophique, indépendamment de Thomas d'Aquin, puisque pour la philosophie, l'autorité de Thomas d'Aquin, c'est en revue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la dernière des raisons. On peut se battre, invoquer Thomas d'Aquin. Il faut maintenant redécouvrir nous-mêmes, au plan philosophique, par notre propre expérience. Qu'est-ce que c'est que la tradition thomiste a appelé le principe d'individuation? Est-ce qu'on peut employer encore ce mot ou faut-il ne plus l'employer? C'est toujours ce qu'il faut se poser. Hein. Alors, comprenons qu'avec le problème de la subsistance et le problème de nous sommes en présence du pos de la substance. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Déjà pour la subsistance, nous l'avons vu. C'est pour cela que je parle tout le temps de l'âme et non plus de la substance. De l'âme humaine, de l'âme spirituelle. Parce que vous n'avez pas d'exemple de connaissance de la substance spirituelle en dehors de l'âme. Vous comprenez bien? L'intelligence connaît l'être. En cherchant ce qu'est l'être, et elle découvre la substance, le tiesti. Mais maintenant, je me pose la question, comme toujours, chaque fois que je découvre un principe propre en philosophie, en métaphysique, en philosophie première, je me pose la question, mais comment existe-t-il? Je suis parti du chemin d'existence. Par l'induction, je saisis le principe propre, la substance. Et je vois que mon âme est substance, mais l'âme est principe de vie en premier lieu. Et ce principe de vie en moi est principe d'être. Je me pose ensuite la question, comment ce principe existe-t-il? Comment va-t-il de fait se présenter à moi? J'ai une certaine expérience. Vous voyez, tu poses, le pose revient, hop, j'ai une expérience. Mais une expérience qui, il faut bien comprendre, qui ne peut se faire qu'en assumant, ou plus exactement, dans la lumière du principe propre de substance. Ce principe propre de substance doit subsister. Parce qu'il est principe propre de l'être. Donc, il ne peut pas mendier son existence d'un autre. C'est le caractère propre de la substance. Et comme, pour moi, la substance la plus parfaite, c'est mon âme. Je n'ai pas d'expérience de substance séparée. ce privilège d'avoir l'expérience d'une substance séparée. Dans ma foi, j'ai l'expérience divine des anges, au moins de mon bon ange. Les autres, ils m'échappent de temps en temps, quoique Michael, il est assez souvent là présent. Gabriel aussi, n'est-ce pas ? On les connaît, de connaissance divine, on les connaît, ils font partie de la famille. Je ne veux pas dire que Gabriel est absent de ma vie, et que Michael est absent de ma vie chrétienne, et que Raphaël est absent de ma vie chrétienne. Je vois au loin des myriades et des myriades d'anges dans ma foi. Donc je les vois sans les voir, mais je sais qu'ils sont présents. Donc le théologien, lui, regarde tout de suite les anges, plus que l'homme, parce que c'est plus parfait. La substance angélique comme substance est plus parfaite chez les anges que chez l'homme. Ça, c'est sûr. Ça, je peux mettre un nota bene, point de vue philosophique, dire selon les traditions chrétiennes, il y a des substances séparées. Déjà, Aristote parlait des substances séparées. Et les néoplatoniciens parlent de substances séparées. Donc, ce n'est pas un langage anti-philosophique. Ce sont des traditions religieuses intéressantes. Et je me posais la question, comment subsistent des substances séparées créées, qui sont les anges, les frères aînés, au point de vue de l'intelligence, au point de vue de la substance. Mais ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, parce que je n'ai pas l'expérience des anges au point de vue philosophique. Ni celle des âmes séparées. Il y avait Gabriel Marcel qui avait l'expérience des âmes séparées. Parce que toute la philosophie de Gabriel Marcel, c'est de rechercher tout le temps, c'est très intéressant, c'est de rechercher tout le temps la présence de celui qui est absent. Celui qui est mort est absent. Quelle est sa présence ? C'est toujours très curieux. Il a fait des préfaces assez curieuses sur un livre de quelqu'un qui prétendait, une mère qui prétendait avoir ce contact constant avec son fils qui était mort. Et elle l'éclairait sous sa dictée. Alors il a fait une préface de la présence de l'absent. C'est un problème assez particulier, mais qui nous font très, très, très souvent chez beaucoup de personnes. Alors, est-ce que c'est l'imagination pure, l'imagination affective ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est pré-philosophique, pré-terre-philosophique, c'est pas du philosophique pur, parce que tout le monde ne l'a pas. Mais c'est un problème qui existe, hein. Et je crois qu'on doit au moins le noter, sans trop rentrer dans cette critique. Dans le temps, je ne sais plus quel est ce livre, on retrouvera assez facilement la préface de Gabriel Marcel. Gabriel Marcel était quelqu'un d'assez particulier. Je racontais une fois cette histoire avec Gabriel Marcel. Je connaissais un petit peu, je l'aimais beaucoup du reste, surtout à la fin de sa vie. Au début, il était assez antithomiste. C'était un converti, hein, du protestantisme. Il était assez antithomiste. Puis à la fin de sa vie, il reconnaissait qu'au fond, Saint Thomas, c'était quand même quelque chose qui demeurait, parce que sans doute que dans 1000 ans, on ne parlerait plus beaucoup de Gabriel Marcel. Et on parlait encore de Thomas d'Aquin. Alors ça m'impressionnait, non ? Alors, j'étais avec un ami qui connaissait aussi bien Gabriel Marcel, hein, on était à Paris, et on voit arriver ce petit bonhomme, parce que Gabriel Marcel était petit, on voit arriver Gabriel Marcel dans le fond. Alors, mon ami me dit, surtout ne lui dites pas bonjour, et laissez-moi agir. Pour qu'il ait l'expérience de l'âme séparée. Alors on le croise à dit que ça, je l'ai vu de moi-même. Ça, c'était. Et qu'après, ben, ça ne pouvait pas supporter que Sartre fasse ses conférences au Japon et que ça représente la philosophie française. Alors, il y avait une douce jalousie extrêmement forte, surtout par la question du théâtre. Le théâtre de Sartre qui était accepté et le théâtre de Gabriel Marcel qui n'était pas accepté. Et elle reste liée à mon corps. vit au rythme de l'univers et n'a plus aucune unité. Il part dans tous les sens. C'est ça la corruption du corps. Vous voyez, c'est très important. Je n'ai pas d'expérience de la mort.
Manque,
je pourrais reprendre dans une autre vie. Mais c'est et je n'ai pas du tout envie de reprendre une vie avec un autre corps. Je sais trop bien combien le corps limite mon âme. Le phénomène de ce corps représente la manière dont l'âme assume le corps, la forme. Donc, ça c'est la première constatation qui, je crois, philosophiquement est très importante aujourd'hui. Étant donné que nous sommes en présence de beaucoup de personnes qui prétendent la réincarnation. Là, il faut montrer que la réincarnation est une manière de répondre à un manque. Une manière de répondre à cette expérience douloureuse de voir que mon corps limite mon âme. C'est vrai, mon corps limite mon âme. Vous êtes obligé de dormir tous les jours. C'est quand même terrible, ça. Vous perdez du temps tous les jours. Hein. Vous dormez. Et vous mangez. Ça, c'est votre corps, c'est pas votre âme. Vous travaillez manuellement. C'est votre corps encore. Vous n'êtes pas tout le temps en contemplation. Vous n'êtes pas tout le temps en amitié. Alors que l'âme réclame contemplation et amitié. Et à cause du corps, il y a la vie commune. Et qui dit vie commune dit justement un alourdissement d'amitié. On sait très bien, quand la vie commune est trop lourde, hein, l'amitié en pâtit. Parce qu'il y a toujours trois personnes, et quelquefois quatre, et quelquefois cinq, et quelquefois dix, et quelquefois vingt, et quelquefois... C'est vrai, il y a un bordel. Alors la vie commune, c'est le corps. On additionne. C'est très important qu'on voit ça. Parce que c'est pas mon âme. Mon âme, il n'y a pas de vie commune chez les anges. Si les anges existent, il n'y a pas de vie commune. Bienheureux anges, sans vie commune. Et uniquement des personnes élégantes, sans le corps, spirituelles. L'âme informe le corps. J'ai l'expérience de cette unité substantielle. Celui qui a l'expérience de cette unité substantielle sait bien que les unités substantielles ne se répètent pas. Et que retrouver mon corps, ce n'est pas naturel. Et cependant, j'en ai une certaine nostalgie. Et donc, je montre que la réincarnation n'est pas possible, mais que ma foi me parle de la résurrection des corps. Alors ça, c'est beaucoup plus beau que la réincarnation. C'est l'épouse fidèle. C'est bien mieux que la Samaritaine. Puisque c'est la foi. Et c'est quand même intéressant de voir ça. Voir que ma foi chrétienne m'empêche d'affirmer la réincarnation. Que ma foi chrétienne confirme l'unité substantielle du corps et de l'âme. Ce que j'affirme philosophiquement dans le réalisme. Que un jour, non seulement il y a une unité substantielle, mais c'est une unité aimant, je suis lié à mon corps, mais en même temps le dépassant complètement. Mon corps ne détermine pas toutes mes connaissances. Ma connaissance, au contraire, a cette qualité, au plan spirituel, de s'évader du corps en abstrayant. C'est un fait. Je peux connaître l'universel, un être que j'ai fabriqué et qui est le fruit de ma pensée et qui montre que ma pensée n'est pas liée au corps dans sa détermination. Elle est liée au corps sans doute dans son exercice, mais elle n'est pas liée au corps dans sa détermination. Je peux connaître mon voisin alors que mon corps est autre que le sien, est distinct du sien. Et cependant, je peux le connaître. Alors, je me trouve en face du problème humain, la connaissance universelle, la connaissance de l'autre et la connaissance de moi, de mon individualité et de quelque chose de beaucoup plus profond de mon esprit et de ma capacité d'aimer au-delà de mon corps. Donc, je connais et je peux connaître dans cette manière d'exister dans mon corps. Je peux connaître quelque chose qui demeure en acte au-delà du corps. Il y a une réflexion humaine qui n'est pas liée, qui n'est pas, je dis pas, qui n'est pas déterminée par le corps et qui demeure liée au corps dans l'exercice. Une fois de plus, voyez, je vois la distinction entre la spécification de ma connaissance et l'exercice de ma connaissance comme une distinction capitale. Si je ne fais pas cette distinction, comme certaines philosophies ne la font pas, la phénoménologie par exemple, eh bien je n'arriverai pas à comprendre ce côté spirituel de mon âme qui échappe au corps dans sa connaissance la plus profonde, dans sa connaissance philosophique, la connaissance des principes. Les lois scientifiques n'échappent pas au corps, alors que la connaissance philosophique échappe au corps, dans sa détermination. Parce que je connais un principe. Un principe dans sa détermination est au-delà du corps. Tandis qu'au contraire, les lois scientifiques sont toujours liées à la quantité. Donc toujours liées. mais mon corps, vous voyez. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Parce que c'est peut-être cela qu'il faut à tout prix comprendre pour saisir le problème de l'individuation. Il y a dans mon âme quelque chose qui n'est pas enfoui dans mon corps, qui dépasse lui. Mon âme est capable de penser l'universel. Et mon cœur est capable d'aimer quelqu'un d'une manière spirituelle. En informant mon corps, mon âme donne à mon corps sa physionomie propre et unique. Oh. Ah non, la sardine de vie. Et à ce moment-là, je me défends. L'individualité, c'est ma vie qui s'exprime de cette manière-là. C'est une individualité vivante. Particulière, greffée sur vous. une fragilité nouvelle. Et sentir que cette fragilité, oui, elle va demander des sacrifices. Petit à petit, mon corps, il va diminuer. Mon âme ne diminue pas. Mais mon âme connaît la fatigue quand mon corps fatigue de trop. Il y a des répercussions. Phénomène de la fatigue. Qui est quand même un phénomène de mon individualité. Phénomène de la maladie. Qui augmente mon individualité. Je suis obligé d'être beaucoup plus attentif à mon corps quand je suis malade. Parce que c'est mon corps qui est malade. Et quand je suis fatigué aussi, je suis beaucoup plus là. J'ai l'expérience beaucoup plus de mon corps. Alors que quand ça va bien, on ne fait aucune expérience. On ne s'arrête pas à l'expérience du corps, vous voyez. Le corps d'un sportif, c'est toujours extrêmement curieux de voir ça. Il ne s'arrête pas. Tandis que le corps d'un petit vieux, tout recourbé sur les mêmes, retournant vers la terre et ne regardant plus que la terre, c'est quand même quelque chose de très particulier. Alors je me pose la question au plan philosophique. Je suis dans l'ordre du pose, donc de l'ordre du comment. Ce n'est donc pas un principe que je cherche, c'est l'origine. C'est l'élément premier. Le pose, ce sont les éléments. Les éléments qui caractérisent mon individualité. Où est mon individualité dans toute sa force? Et quel est le premier moment de mon individualité? Quel est le premier moment où je suis distinct des autres et je suis indivisible en moi-même? Oui, je ne cherche pas, ce serait intéressant de savoir quel est l'élément en moi actuellement qui est l'élément de mon individualité la plus forte. Est-ce que c'est mon corps, mon cœur? Est-ce que c'est ma tête? Vous savez que philosophiquement, il y a deux théories. Hein. Il y a des théories de ceux qui disent que l'individualité est la plus forte. Eux, ils disent la personnalité, moi je dis l'individualité. C'est le cœur. La fameuse expérience que donnait un journal avec les deux animaux, Médor et Azor. Alors on coupe la tête de Médor, on la met à la place d'Azor. Et quand on dit Médor, quel est celui qui répond? Est-ce que c'est la tête ou le cœur? C'est très joli comme question. Je fais pas ça pour l'homme, mais pour Médor et Azor. Eh bien, c'est le cœur de Médor qui répond. Et ce n'est pas la tête d'Azor. Alors est-ce que mon individualité, elle est dans mon sang. Elle est liée au cœur. Vous voyez, l'ultime moment de l'individualité, c'est quand même dans la formation, c'est le cerveau. Ça c'est sûr. C'est là où c'est le plus complexe. Le corps est un organe assez gros. Et assez simple. Comme me disait un biologiste une fois, c'est une pompe. Le corps, c'est une